Il y a longtemps que vous êtes orléans ou enfin.
Oui. J'ai toujours été orléans.
Vous avez toujours été orléans, oui. Cette maison-là. Et ça vous plaît comme ville, ce qu'il y a qui...
Ça me plaît dans la mesure où je n'y suis plus pour faire mes études.
Pourquoi enfin, l'université orléans ne vous plaît pas ou...
Non, l'université orléans marche assez mal, je crois. Il y a trop peu d'étudiants. Mmh. Surtout en lettres.
Oui.
Et je ne regrette pas d'avoir quitté Orléans.
Pour. Non. Enfin, mais vous faites vos études maintenant à Tours.
Et je faisais à Tours, oui.
Oui. Ouais. Et plus du tout Orléans, plus du tout.
Plus du tout Orléans, non.
Non. Même pour enfin, lettres modernes et tout ça, vous ne suivez pas certains cours Orléans
ou... Si, je suis certains cours Orléans pour une seule raison, celle de la rêve. C'est impossible de suivre. Tout à Tours, mais c'est l'unique raison. C'est parfaitement accidentel.
Ah oui, d'accord. Mmh. Et, enfin, Orléans, justement, par rapport à l'université, ils n'ont pas de... C'est la première année, je crois, qu'ils font la licence à Orléans
oui,
même.
C'est
oui,
ça.
C'est ça. Mmh. Et donc, enfin, j'ai entendu parler qu'à Tours, enfin, pour les étudiants en lettres, ça marche beaucoup mieux qu'à Orléans. Mais par contre, pour les étudiants en sciences, ça marche beaucoup mieux à Orléans qu'à Tours. Je ne sais pas si...
Oui, ça c'est possible. Ça c'est très très possible. Moi, je peux en juger en sens que je suis en lettres. Mm-hmm. Il est certain qu'à Orléans, ça marche très très bien pour les sciences, je crois. Dire qu'à Tours, ça marche moins bien, ça, je ne pourrais pas l'affirmer.
Oui. Mm-hmm. Enfin.
En tout cas, en ce qui concerne la faculté tout entière, j'ai nettement l'impression que ce qui fait qu'Orléans est un véritable vide du point de vue étudiant, du point de vue de la vie étudiante, en dehors des cours, c'est qu'à Tours, il y a une vraie connexion et qu'à Orléans, il n'y en a
pas. Ah bon.
Ça me paraît énorme.
Oui.
Ça, c'est très dommage pour Orléans. Enfin, c'est pas le but d'Orléans. Orléans, directement, il y a des lettres et du droit.
Oui.
Et à Tours, des sciences. C'est pour ça que ça marche probablement mieux en sciences. Les sciences et la médecine.
Oui, c'est ça. Et est-ce que vous comptez rester à Orléans plus tard, quand vous aurez terminé vos études, par exemple? Vous comptez rester, revenir à Orléans pour travailler ou partir travailler?
Je préférerais partir. Je préférerais partir. Évidemment, ça dépendra de ce que je fais. Mmh. Ça, si je réussis à passer une réaction de lettres et qu'on me propose à Orléans, bien entendu que je reviendrai.
À Orléans, oui.
À Orléans, puisque partout, de l'université université jeune, on aura de la place.
Oui, d'accord. Oui. Et on va pouvoir faire passer leur agrégation à Tours.
À Tours. Je pense qu'ils ne créeront pas l'année prochaine
d'agrégation à Orléans.
Oui, certainement pas.
Et un CAPES, enfin, on n'a pas du.
Non, je crois qu'il y a des cours de CAPES à Orléans, mais il faut quand même aller une journée par semaine à Tours pour avoir quelque chose.
Mmh, d'accord. Et enfin, vous faites des études. En lettres supérieures, non, lettres modernes.
Lettres modernes, oui.
Oui, et vous avez parlé de russe la dernière fois quand je vous ai
dit. J'ai fait du russe, oui, à Tours.
Mais pour faire une licence de russe ou enfin pour en partie de enfin des cours de lettres modernes. Est-ce que c'est pour la littérature comparée que vous faites des études de russe pour pouvoir enfin lire la littérature
oui.
comparée
oui.
Ou est-ce que ça fait enfin est-ce que vous faites une licence de russe? À part votre licence
oui,
de...
Oui, c'est à part, puisque ce que je fais en russe, c'est Langzo, en réalité. Langzo qui a monté... qui a monté, qui a établi quelques... Je ne vais pas dire succursales, c'est pas le terme, enfin, en province.
Oui, d'accord.
Donc Tours fait partie, voilà. Mmh. Donc c'est pas une licence, ce sont les trois attestations de Langzo.
D'accord.
Mmh. Qui, au cas échéant, me permettrait pour l'agrégation de présenter une littérature comparée russe-français.
Ah bon, oui, voilà. D'accord. Ouais. Et enfin, comment est-ce que ça se passe à toi? Est-ce que vous pouvez me décrire enfin une journée typique dans
et
la vie étudiantine à Tours?
La vie étudiantine de Tours?
Oui, une journée typique.
En faisant une comparaison avec Orléans?
Oh, oui.
On va pas m'en empêcher tout
ça. Ce que vous voulez, enfin, comment est-ce que ça se passe?
Bon, c'est un contexte parfaitement différent. À l'université, en sens qu'on n'a pas l'impression d'être au lycée, comme à Orléans, par exemple.
Oui,
Orléans, on est trop peu, on est 30 en tout, pour la licence, donc c'est très peu à tout, on est vraiment noyé dans une masse. Alors ça a bien entendu tous ces inconvénients, mais ça a quand même pas mal d'avantages, ne serait-ce que du point de vue de la, des rapports avec les étudiants qui sont bien plus vastes. À Orléans, il se trouve qu'on est trois ou quatre à se connaître de par notre milieu, par exemple,
oui.
Et puis une dizaine que l'on ne fréquente pas systématiquement parce qu'ils n'ont pas du même milieu, presque. Mm-hmm. C'est très net à Orléans. Alors qu'à Tours, on fréquente absolument tout le monde. Parce qu'on est un bon groupe, parce qu'on va tous au même restaurant universitaire, parce qu'on a une vie en commun.
Oui, d'accord.
Qui n'existe absolument pas à Orléans, mmh. pratiquement pas. Mmh. Les Orléanais vont à leur cours et reviennent déjeuner chez eux.
Oui, d'accord.
À Tours, finalement, c'est pas ça pour la bonne raison que les étudiants viennent d'autre part, pour la plupart, d'autres villes.
Oui, d'accord. Mmh. Et alors, à Tours, enfin, l'université est séparée comme à Orléans de la ville, ou est-ce que c'est...
Il y a les deux. Il y a une espèce de campus à Tours, mmh. où on a mis les étudiants des trois premières années, des deux premières années en principe, pour toutes les sections.
Mmh.
Droit, mmh. sciences, peut-être pas droit d'ailleurs, je fais une erreur. Droit, c'est toujours en ville. Et puis alors dans la ville reste la vieille fac, ce qui n'y a pas rien.
Oui, d'accord.
Mmh. Où on a coupé les Carpésiens, les Ipésiens, enfin tous les gens qui sont un tout petit peu plus calés. Quoi.
Oui, d'accord.
Il y a deux restaurants universitaires.
Et deux restaurants universitaires.
Un en ville et un à Gramont, ça s'appelle Gramont, là.
Le campus.
Oui,
d'accord. Mmh. Oui, d'accord. Et vous êtes en résidence universitaire à Tours ou
est-ce Non, que... moi j'ai un studio mmh. qui est dans la résidence universitaire, parce mmh. qu'il y a à Tours des entrepreneurs qui sont assez malins, qui sont dit on va construire des studios, mmh. et dans la cité même.
Dans la cité
même. Dans la cité même, oui.
Mmh. Ah, d'accord. Et enfin, comment vous avez cours combien de jours par semaine enfin, vous avez...
En licence, on a cours 4 jours par semaine.
4 jours. Mmh.
4 jours. Oui, c'est ça, 4 jours.
4 jours par semaine. Et enfin, qu'est-ce qui vous plaît à Tours ou vous déplaît? Qu'est-ce qui compte?
Je crois que ce qui compte à Tours, je parlais de relations, en fait, c'est un peu ça. C'est qu'il y a une vie de nuit des étudiants. C'est-à-dire que je fais la foire. Sans faire la foire, c'est quand même plus intéressant qu'à Orléans, où une fois que les gens sont sortis de leur cours ou de leur petit travail personnel, c'est fini.
Oui,
rien. Parce qu'il faut bien considérer que quand on est étudiant, c'est le moment le plus intéressant pour connaître des gens de tous les milieux, de toutes sortes.
Oui.
Orléans, ça n'existe pas. Et il y a peut-être une raison à ça, c'est que les professeurs s'en vont. Les professeurs n'habitent pas Orléans, pour la plupart. Ils habitent Paris ou ils habitent Tours.
Oui.
Donc il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de centre d'intérêt, même il n'y a pas de ciné-club à Orléans, presque. Il n'y a pas, même. À Tours, il y a un mini-studio qui marche à la perfection, où on a un bon cinéma, etc. Bon, ça fait déjà un centre d'intérêt, il y a quatre choses qui n'existent pas.
Oui.
Qui n'existent pas rien, pourquoi? Parce que les autorités de la ville se disent probablement qu'on est très près de Paris.
Oui, enfin...
Etc.
Oui, d'accord.
Il y a même des possibilités de sport qui sont parlées. Par exemple, par exemple, il y a la patinoire. Beaucoup d'étudiants vont patiner et se retrouvent, c'est une patinoire d'étudiants. Orléans, il n'y a pas ça. Il y a un tennis privé et auquel on entre parce que ceci, cela. C'est tout.
Mmh.
On est des gens bien.
Mmh. Oh, d'accord.
C'est tout.
Et enfin, j'ai une question un peu. Éloigné de la question au sujet des études, de plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui. Est-ce que c'est personnellement pour ou contre?
Absolument pour.
Absolument pour.
Je ne tiens pas à faire une dépression nerveuse quand j'aurai une trentaine d'années et que j'aurai élevé deux ou trois enfants. Non, ça me paraît essentiel, extrêmement important.
Que la femme travaille. Que la femme mariée travaille.
Que la femme mariée travaille.
Oui. Et parce que justement, il paraît qu'en France, il y a beaucoup de. En Angleterre, je crois maintenant que la femme mariée qui travaille est acceptée à peu près. Mais enfin, je crois toujours en France, il y a un peu l'honneur ou je ne sais pas, enfin, surtout du côté des hommes qui ne veulent pas que leur femme...
Que leur femme travaille. Il y a une conception encore assez... C'est exact, oui. Oui, assez ancienne de la femme. Enfin, je crois que cette conception-là, elle est très ancrée, par exemple, au niveau de la génération des parents. Que mes parents soient assez jeunes relativement, mais enfin, si, à la génération des parents. Mmh. La génération des étudiants, certainement pas. Enfin, des étudiants, des jeunes, certainement pas. Je crois que Là, il y a vraiment... C'est notre génération plus que beaucoup depuis, disons, une centaine d'années en France qui va faire un bouleversement, parce qu'il y a connu.
Oui, oui.
Mais je crois qu'à cet égard, là, oui, certainement un changement.
Mm-hmm. Oui, d'accord. Et enfin, la femme mariée qui travaille, elle a... Enfin, vous ne la voyez pas liée à la maison, enfin, attachée par une chaîne de fer à son évier, à sa cuisine de...
Non, bien entendu. Mais il faut faire une restriction, c'est pas exactement le terme. Enfin, je considère pas que le mari rentrera, disons, chez lui pour ne rien faire et lire son journal ou s'occuper de ses enfants. Je pense qu'à partir du moment où la femme travaille, le mari devra s'occuper de ses enfants et faire la vaisselle.
Oui.
Voilà,
et vous croyez que les Français
vont faire un équilibre.
Oui, d'accord. Hein? Oui,
sans l'autre, c'est inconcevable.
Oui, d'accord. Et vous croyez que les Français enfin, vont faire ça? Parce que, je ne sais pas, jusqu'ici, je ne connais pas beaucoup de Français qui... Enfin, pas de ma génération à moi, mais...
Bon, alors disons qu'à l'heure actuelle, ce qui se trouve le plus... je m'excuse de parler des étudiants, mais c'est quand même le milieu que je connais le mieux, je peux parler d'autres choses. Très souvent, la jeune femme travaille parce qu'on a voulu se marier à tout prix.
Oui.
Le mari n'a pas fini ses études, pas tout à fait. Mm-hmm. La jeune femme a juste une licence, disons. Donc elle va enseigner.
Mm-hmm.
Le mari continuera ses études, c'est elle qui amène l'argent au foyer. Le mari va se sentir forcé de faire quelques travaux ménagers. C'est pas de crâne, j'en sais rien. Ça, je ne peux pas l'affirmer.
Oui.
Mais
ça,
il est probable quand même. Ça se fera, peut-être lentement, mais ça se fera.
Oui, d'accord. Oui, enfin, moi je suis pour enfin, que la femme aille travailler. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et enfin, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Vous pouvez parler de la vie estudiantine hors des cours à Tours. Qu'est-ce que vous faites enfin de soirées, le samedi, le dimanche?
Bon, alors, le samedi, le dimanche, là je ne parle plus de Tours, je parle d'Orléans. Puisque je reviens à Orléans et que je suis avec ma famille. Donc en principe, ça c'est peut-être une question de famille, le dimanche c'est tout à fait réservé. En principe je ne sors pas, je reste avec mes parents, mes petits frères. Bon, en dehors de cela, et en dehors des cours donc durant la semaine, je m'impose du sport. Je fais beaucoup de patinage personnellement. Et l'été du tennis.
Du tennis.
L'été du tennis et l'hiver souvent du patinage. En dehors de cela, bien, je m'amuse. Je m'amuse beaucoup trop d'ailleurs, mais je m'amuse.
Oui. Et enfin, pour s'amuser, enfin, vous occupez d'un ciné-club ou...
Oui, alors je vais. Oui. Alors là, je n'appelle pas ça l'amusement ni le divertissement, mais presque du travail.
Un du ciné-club.
Un ciné-club, oui. C'est essentiel.
Comment on a, enfin
le ciné-club, je ne parle pas du cinéma commercial, continue certainement très intéressant d'aller dans les cinémas commerciaux et de voir les films qui viennent de sortir qui peuvent être valables, mais ce que j'appelle ciné-club, ce sont des classiques qui me paraissent, je vais peut-être dire quelque chose d'un petit peu offusqué, mais aussi important que les classiques. Oui, pour notre époque.
Oui, d'accord. Oui.
Et... Alors, c'est presque du. C'est pas du travail, mais si, c'est presque ça, finalement.
Oui, d'accord. Ce qu'on. Enfin, vraiment aller voir un film et essayer d'en faire l'analyse au fur et à mesure qu'on voit le film, et puis alors.
Oui, le voir plus d'une fois. Voilà, c'est ce qu'on appelle le ciné-club.
Oui, d'accord. Oui.
Le voir plus d'une fois et y aller la première fois sans savoir de quoi il s'agit, peut-être. Mais la seconde fois, voir ce que l'on va voir et connaître un petit peu de quoi il s'agit. Quoi.
Oui, d'accord. Et comment est-ce que vous avez passé dimanche dernier?
Dimanche dernier, c'était hier, non?
Oui, c'était hier. Qu'est-ce que vous avez fait?
Je dors. Ah. Je dors le matin. Vous êtes mal tombé parce que c'était parfaitement exceptionnel. J'avais passé deux nuits précédente de veille presque, alors j'ai beaucoup dormi. Mais d'ailleurs, c'est presque régulier. Je dors le dimanche matin.
Oui.
Et je fais peu de choses. Dimanche, j'ai honte. Disons que. Oui, alors je dors, je me lève vers 11h. Et je je déjeune.
Oui.
Et je discute avec mes parents aussi. Nous faisons un bridge très souvent.
Mm-hmm.
Nous faisons un bridge avec mes parents, mes frères, et nous discutons. Et une visite à la famille.
Oui.
Et un thé à 5 heures.
Oui.
Toujours avec mes parents et mes frères.
Mm-hmm.
Ce qui est l'occasion de discussion de tout ça.
Oui. Oui, oui.
Discussion, plus exactement conversation tout de même.
Oui, oui.
Pas de sourire de journée.
Oui, oui, bien sûr. Oui, enfin. Et puis.
Et aussi... je lis très tard le soir.
Mm-hmm.
Et en principe, je ne travaille pas nuit.
Non, d'accord. Oui.
C'est pas même un principe, c'est plutôt de la paresse.
Oh non, enfin, il faut la faire. C'est un principe quand même. Je crois que tout le monde a ce principe de ne pas travailler le dimanche. Et. Qu'est-ce que vous ferez pendant les vacances d'été, enfin, cette année?
Eh bien, pendant les vacances d'été, je pars régulièrement et j'y tiens beaucoup. Hein. Ça, je dois le signaler, c'est que j'aime beaucoup partir avec ma famille. Nous partons donc un mois sur la Côte d'Azur avec mes parents. Et après, je pars un mois seul ou avec ma mère, puisque ma mère est professeure et s'intéresse beaucoup à l'archéologie. Nous partons soit en Grèce, soit, ça c'est pas sûr, aux États-Unis ou plutôt en Amérique du Sud pour visiter un petit peu. Enfin, seul, avec des étudiants pour moi, ou alors hypothétiquement, on n'est pas certain, avec ma mère, qui elle partirait avec un groupe d'archéologues.
Ouais,
quand même un voyage organisé.
Oui, d'accord.
Voilà. Et puis, je réserve un mois pour probablement une licence à repasser. Non, c'est pas certain pour cette année. Je vais quand même prendre mes distances, hein, faire attention pour le voir en juin. Voilà.
Oui, comme enfin, quand même un mois, deux mois.
Deux mois en dehors.
Organisé,
oui.
Et puis
oui.
Un mois quand même
oui.
Où
oui.
On fait
ça, oui.
Travail, oui, d'accord. Et si vous aviez deux heures de temps supplémentaire, de temps libre supplémentaire par jour, qu'est-ce que vous feriez de ce temps libre? Si on vous accordait par exemple 2 heures.
2 heures?
Oui.
D'abord, j'aurais très très peur de gaspiller.
Mm-hmm.
Parce que finalement, étant donné ce que je gaspille dans une journée, pourquoi je ne gaspillerais pas 2 heures de plus, honnêtement. Mais si j'avais 2 heures et que je décide d'en faire quelque chose, je lirais certainement. Avant tout, je lirais. Ou alors, j'irais prendre des cours de musique au conservatoire. C'est pas, je rigole pas.
Des cours de musique
au conservatoire. De musique au conservatoire.
Oui.
Histoire de la musique.
Histoire de la musique ou un instrument ou un...
Non, pas un instrument. Histoire de la musique.
Histoire de la musique.
C'est-à-dire ce qu'on ne sait pas.
Oui, d'accord. Oui, très intéressant. Alors, mais vraiment, mais lire, je ne comprends pas lire parce que...
Ah, vous ne comprenez pas lire?
Enfin, si, je comprends lire, enfin, vous ne lisez pas assez, enfin...
C'est-à-dire que si je veux, par exemple, lire un journal par jour, je laisse tomber un bouquin.
Ouais,
bon. Et ce que j'appellerais, oui, je peux préciser en fait, lire, c'est prendre par exemple Maupassant et lire, en profiter pour lire tout Maupassant ou le plus possible de Maupassant. C'est-à-dire ne plus tomber dans une espèce de spécialité.
D'accord.
J'allais dire. De travail un petit peu vain que nous présente parfois celui des études littéraires, mais d'acquérir quelque chose de plus personnel.
Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, justement, comme vous avez dit lire, vraiment, enfin,
mais
parce que si on fait une licence en lettres, on a...
On lit déjà.
Oui, on lit déjà beaucoup. Alors c'est
mais
ça
permettre, il faut bien dire, quand on fait une licence de lettres, dans une année, on travaille par exemple Gide ou un autre auteur, et moi on travaille pas beaucoup plus, même si on fait un tout petit peu de littérature comparée et qu'on a droit à 3 ou 4 poètes anglais. Donc c'est rien du tout, mais c'est néanmoins intéressant de sortir par exemple de Charles Harold et de autre chose de Byron.
Oui, d'accord, oui, certainement, oui, c'est ça. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école? Est-ce qu'il y a quelque chose qui. Qu'on devrait surtout apprendre aux enfants.
Mais je vais être très utopiste, certainement, parce que je sais pas. Je crois qu'on devrait. Très concrètement, d'ailleurs, avant d'autre chose, je voudrais dire qu'il faudrait leur apprendre un petit peu de ce qu'on ne fait pas du tout en France, l'instruction civique. Ce qui est toujours galvaudé. Mais en dehors de ça, je pense qu'on devrait leur apprendre, savoir qu'ils ont un petit voisin à côté d'eux, qu'ils ne sont pas là pour apprendre la liste des départements français. numéro à l'appui.
Oui, d'accord.
Alors qu'ils n'ont aucune idée de la réalité. Pour eux, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, à leur apprendre, serait peut-être qu'ils ont un vagin. Leur apprendre à regarder, à écouter.
Oui, d'accord. Oui, plutôt qu'apprendre...
C'est quelque chose qui n'a pour eux... Le lien ne se fait absolument pas. Il ne peut pas se faire entre la réalité du département et du numéro qu'on va leur coller dans leur tête et ce département.
Alors,
c'est un exemple, c'est très mal expliqué, mais...
Essayer
de leur montrer plus que des faits, établir, essayer de mettre en évidence un lien entre les choses.
Oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école ?
Est-ce qu'il y a... C'est une très très bonne chose, je déplore que ça n'existe presque plus en France.
Oui, ah bon. Parce qu'en général, le latin, je crois... perd beaucoup de terrain en France en ce moment. Et surtout, il y a une discussion de deuxième langue, ils mettent la deuxième langue. Est-ce qu'on va la prendre ou est-ce qu'on ne va pas la prendre? Mais bien sûr, le latin est une langue. Est-ce que ce n'est pas considéré comme une discipline à part les langues, à peu près?
Ah oui, bien sûr. Oui. Je crois que c'est considéré comme une discipline de formation de l'esprit, de formation du raisonnement, de formation de l'attention, etc. Oui. Et je crois que c'est ça qui est essentiel, d'ailleurs. En dehors du fait qu'on ne peut étudier aucune langue romane, à mon avis, sans avoir fait de latin et sans comprendre le latin, il est certain que les élèves qui auront fait du latin d'une façon normale, sans avoir à piocher dans un dictionnaire bêtement pour ajouter des mots au bout des uns des autres, auront acquis une certaine... méthode, presque je dirais une rigueur. Je crois que l'étude du latin et l'enseignement du latin devraient apporter à l'élève presque autant que l'étude des mathématiques.
Oui, d'accord.
En sens que ça, je pense que ça doit donner une certaine rigueur, énormément d'attention.
Oui, certainement. Mais enfin, justement, c'est... Le latin, on n'est pas beaucoup pour, enfin, il me semble.
Je trouve ça très, très, très dommage.
Oui. Et dans quelle matière est-il bon qu'un enfant soit fort à l'école? Est-ce qu'il y a des matières qui vous semblent plus importantes que les autres ou...
Non, certainement pas. Non, certainement pas. Moi, j'apprécie beaucoup l'élève qui est doué en français. Je me dis qu'il est fin, mais en fait, c'est un tort. C'est un tort parce que je pense que chaque enfant... peut être bon dans n'importe quelle matière, peu importe. À partir du moment où il est bon dans une matière, je pense qu'il y a beaucoup plus d'espoir que lorsqu'il est moyen dans toutes les matières.
Dans toutes les matières, oui. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école ?
Je crois, pour une bonne part, je crois, parce que je peux dire énormément de bêtises, qu'il y a une question de formation, d'éducation, qui joue à... Je parle jusqu'au bachot, hein. Qui joue à, je vais peut-être dire une heure, mais à 70%. Oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui sont des tartes, enfin, excusez-moi le terme, mais...
Je ne comprends pas ça.
Je ne peux pas dire qu'il y a des élèves qui sont pas doués. Certains, il y en a. Bon, mais avec une bonne formation, je pense que... Et c'est l'essentiel, n'importe quel enfant pourrait atteindre un certain niveau.
Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par formation?
Alors, par formation, j'entends d'une part le rôle, un rôle qui est très important celui des parents.
Oui.
Ça, c'est pas... Formation, ce serait quelque chose d'idéal à la limite, alors c'est difficile d'en parler. Mais qu'il y ait celui des parents, qu'il y ait une espèce d'équilibre en lui avant tout, bien entendu. Et à partir de ce moment-là où il y a équilibre, je pense que n'importe quel enfant peut arriver à un certain niveau.
Bon. Oui.
En dehors de ça, il y a l'enseignement qui doit être, j'allais dire valable, ça ne veut rien dire, qui doit être soutenu, qui doit être méthodique, etc. etc. Bon, ben, ça c'est bien connu. Mais... Oui, je crois que c'est ça, ça vient à ça. Quels étaient exactement les termes de votre question?
C'est qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas?
Alors, j'ai répondu à l'éducation, enfin la formation. Oui, certainement. En mettant à part les minus abins.
Les
minus abins, qui ont moins.
Oui. Ah oui, abins. Hein? Ah oui, d'accord.
Oui, d'accord. Vous avez un sale accent quand on prononce les
abins. Oui, d'accord.
En les mettant à part.
Hein. Oui, d'accord.
Non, je pense qu'un équilibre au foyer, par exemple, plus une formation avec des méthodes pédagogiques concluantes, il n'y a pas de problème.
Oui, c'est ça.
Je ne dis pas qu'à tout enfant, même avec une formation idéale, comme je viens d'en parler, pourrait devenir un polytechnicien. Ça, c'est pas nécessairement, mais ça n'a aucune importance.
Non, c'est ça. Mais enfin, c'est réussir à l'école, c'est quand même... réussir jusqu'à un certain point.
Ne pas exiger
que tout enfant soit polytechnicien. Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études, en fait? Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce que vous voyez un âge limite ou enfin un âge idéal?
Je crois que c'est pas tellement l'âge. Enfin, si bien sûr, je pense que la loi oblige les enfants à aller jusqu'à 16 ans maintenant, je crois, en France.
Je crois, oui.
À 16 ans. Mais il y a des enfants qui n'aiment pas les études. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas question d'âge. On les passe aller jusqu'à 16 ans et qu'après, on leur fasse faire autre chose. Puisque... Enfin, je ne sais pas si c'est une question d'âge ou tellement. Enfin, je sais que j'aurais des enfants personnellement, je ferais n'importe quoi pour qu'ils fassent des études le plus longtemps possible, à la condition que ça les intéresse. Oui, s'ils ont envie de faire de la danse, qu'ils fassent de la danse. S'ils sont heureux en faisant de la danse.
Oui, d'accord. Oui, bien sûr.
Alors, c'est pas tellement une question d'âge, une question de...
De goût, mentalité,
de goût et d'aptitude probablement avant.
Oui, oui.
Je sais pas, goût.
Oui. Qui ferait que...
Question de joie, quoi, finalement. De joie au terme le moins galvaudé, j'espère que vous entendrez comme ça.
Mais enfin, il faut quand même que le gouvernement...
Ah oui, alors, d'une façon beaucoup plus concrète.
Oui,
Oui, mais à 16 ans, c'est très bien.
16 ans,
16 ans.
Pas 18 ans, 14
non,
ans.
Non, pas 18 ans, 14 ans non plus. Non. 16 ans, je trouve que c'est une bonne limite.
Oui.
Avant, il y avait 14 ans en France, c'était trop peu.
Oui.
16 ans, un enfant, c'est déjà... Enfin, un adolescent, donc c'est déjà s'il a envie de faire autre chose, je crois.
Tandis qu'à l'âge de 14 ans... Que 14 ans,
c'est trop jeune.
Vous croyez que c'est trop jeune pour se décider
Je crois.
D'accord. Et c'est la même chose pour les garçons et les filles.
Ah, ce que j'allais dire. Peut-être pas, non. Peut-être pas. J'y ai jamais réfléchi, donc je pourrais peut-être vous répondre une bêtise. Mais je mettrais 16 ans pour un garçon, je mettrais peut-être moins pour une fille.
Ah, c'est intéressant. Et comment ça? Pourquoi?
Je mettrais moins pour une fille, j'ai l'impression qu'une fille... Quand une fille a 14 ans, elle me paraît plus mûre qu'un garçon au même âge.
Oui, d'accord.
J'ai bien dit paraît.
Oui.
Parce que c'est parfaitement subjectif. Oui. À la limite, très personnel.
Oui, enfin, oui, c'est... Oui, c'est certain. Ah oui, c'est... Alors, trouver que les filles savent exactement ce qu'elles veulent.
Oui, c'est peut-être pas aussi définitif, hein.
Oui.
Probablement, oui. Plus qu'un garçon, en tout cas.
Du même âge, oui. Surtout à ce moment-là, dans leur fiche, ouais, c'est fort possible. Et pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que d'après vous, on fait assez pour les habitants d'Orléans?
Oui, on a fait beaucoup de choses à Orléans pour les habitants. Ce que je ne vais pas dire critiquer, ce que je trouve peut-être dommage, c'est l'ordre dans lequel les choses ont été faites. Mes parents seraient commerçants, je serais peut-être ravie qu'on ait construit un palais des expositions. Mes parents ne le sont pas, donc je m'en fiche un peu. C'est peut-être très bon pour l'histoire de la ville d'ailleurs, en fait. Moi je n'ai pas entré dans ces considérations-là, d'abord je n'y connais rien. Mais on pourrait probablement faire plus de choses pour les étudiants.
Pour les étudiants.
Je ne suis pas contestataire née, absolument pas. Néanmoins, je pense qu'un ciné-club ou un théâtre ou des activités de ce genre qui seraient d'ordre plus culturel ne seraient pas les moins bienvenus à Orléans.
Oui. Et quand je vous ai posé la question, j'ai dit « on ». Et « on », ça représente qui?
Moi, pour « on », ça représente le maire, que je connais très bien d'ailleurs, et qui fait chose d'ailleurs, je crois, le mieux qu'il peut. Sont les crédits qui sont inscrits, mais oui, voilà ce que ça représente pour moi.
Le maire,
parce que je constate qu'à Orléans, il y a fort peu de gens qui prennent des initiatives.
Et il n'y a pas d'autres personnes qui comptent ou qui ont de l'influence, qui pourraient influer?
Orléans, je trouve qu'il y a peu, très peu.
Très peu.
Genre,
oui. Très peu. C'est intéressant. Mais dans d'autres villes, vous croyez que...
J'ai l'impression, par exemple, que dans une ville comme Tours, que je connais moyennement, comme Troyes, que je connais mieux, certains particuliers, par exemple, mais vraiment des particuliers, un médecin, par exemple, ont eu l'idée de faire, par exemple, un lac.
Avec,
etc. Bon, ça, c'est le domaine des distractions, mais je pense qu'il n'est pas négligé à l'heure actuelle.
Oui, d'accord.
Même si quelques professeurs en Orléans ont décidé de monter un ciné-club qui marche abominablement mal pour la bonne raison que les gens n'y sont jamais venus parce que je ne sais pas pourquoi, la publicité n'a pas été faite, je ne sais quoi, il y a quand même peu de choses, ça avorte facilement en Orléans. Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que Paris est quand même pour quelque chose, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un autre petit exemple. Donc, je fais énormément de patins, de patinage à Tours, et je connais très bien le directeur de la patinoire de Tours. Je lui ai demandé avant-hier même s'il avait l'intention de monter quelque chose à Orléans, et sa réponse a été non. Pour l'instant, je ferai quelque chose en ceinture sud de Paris. Je ne ferai rien à Orléans, c'est trop près de Paris. Alors, je pense qu'il y a ça quand même.
Je pense que tout le monde peut se déplacer pour aller à Paris.
Oui, d'autant plus qu'on va construire cette espèce de... Enfin, pas cette espèce, cette machine merveilleuse qui mettra quelques 20 minutes pour aller dormir à Paris.
Oui, c'est ça.
C'est important, ça.
Oui.
Il y a quand même un certain nombre, je ne sais pas si vous connaissez les proportions, je ne pourrais pas vous les indiquer, de gens qui à Orléans travaillent tous les jours à Paris.
Oui, enfin, je ne connais pas les proportions, mais enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes
exactement
qui se déplacent tous les jours.
Oui, et inversement, beaucoup de professeurs, même dans les lycées d'Orléans, en dehors de la FAD, donc et dans les écoles libres, viennent tous les jours de Paris ou presque. C'est important, ça, je crois.
Oui. Oui, c'est... Mais des professeurs de lycée
a... Des professeurs de lycée, oui, et des professeurs de...
Oui, de faculté.
Comment on appelle ? Écoles libres.
Des écoles libres.
Des écoles libres, énormément, et ça, je suis sûre.
Oui, d'accord. Alors, c'est la proximité de Paris qui fait que, enfin, Orléans...
Probablement, très certainement. Oui. Je pense que... Enfin, je m'y connais suffisamment sur un tas de problèmes économiques.
Bon, enfin, les statistiques, mais enfin, pour...
Mais je pense que c'est certainement très jouer. Important, plus même que je n'imagine.
Oui, certainement. Et on a beaucoup parlé des événements de mai 68. Je n'étais pas en France à l'époque. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça s'est passé?
Comment ça s'est passé? À Orléans, il n'y a rien eu. À Orléans, il n'y a rien eu, et je suis très, très, très mal placée pour vous en parler. À l'époque, j'étais donc à Orléans au lycée encore, puisque j'ai fait Hippocagne-Cagne. Et je faisais en même temps mes deux premières années de licence.
Oui, d'accord.
Ce que j'en ai suivi, c'est par peu de choses. Je ne pouvais même pas en parler, je serais ni objective, je connais trop peu ce qui s'est passé. Je ne m'en suis pas désintéressée, moi, de là, vis-à-vis de mes parents, puisque je suis dans un milieu très, très bourgeois. J'étais ravie qu'on se tape dessus à Paris, mais ravie. Mais je ne peux pas dire quelque chose de sincère, de vrai.
D'accord.
Je suis incapable.
Mais enfin, il n'y a pas eu de manque d'essence ni d'aliments. Enfin, il n'y a pas eu de manque d'essence ni d'aliments à Orléans. Enfin, il n'y a plus de... On n'a pas ressenti vraiment qu'il y avait quelque chose à Paris, par exemple dans le domaine de l'essence pour les voitures.
Oui, trois fois rien.
Non, rien.
C'était tellement peu de choses que... Non, ça j'en suis persuadée. Je fumais déjà des gauloises à l'époque, et on ne m'a jamais renvoyé.
Ah bon?
Même si j'étais une jeune fille, alors qu'on me faisait très régulièrement à Paris, on ne donnait pas de tabac aux femmes, je crois. Non, je ne veux rien. Ça c'est la petite histoire... je crois que c'est pas grand chose.
Enfin,
il y a peut-être eu une manifestation à Orléans où quelques étudiants avaient trouvé le moyen d'aller chercher 4 ou 5 ouvriers de chez Lambert. C'est une usine à Orléans.
Ouais,
et puis 2 ou 3 merci. Les patrons ont été enfermés dans leur bureau. Mais je pense que ça, c'était le folklore.
Oui, d'accord.
C'est bien tout.
Et, enfin, pour expliquer ces événements, alors sur le plan national, est-ce que vous croyez qu'on peut les expliquer?
Je crois qu'on peut les expliquer, oui, ça, je suis persuadée.
Et comment est-ce que vous...
Bon, alors, je vais prendre une chose, simplement, ça va être... Enfin, ça sera très mal expliqué, de toute façon, mais tant pis. Non, mais je vais parler d'éducation nationale, tout simplement. et des crédits qui sont donnés, je ne veux pas en entendre parler, parce que je sais que c'est l'éternel problème, et je ne peux pas me permettre d'en parler. Néanmoins, je comprends tout à fait, mais vraiment, hein, que certains étudiants qui sont munis d'une bourse vraiment minime, minime, n'ont pas la possibilité de vivre une vie qui devrait être celle d'un étudiant. Qu'ils aient la possibilité de faire leurs études, c'est certain.
Oui.
À la condition qu'ils rentrent tous les jours dans leur chambre, qu'ils mangent deux fois par jour au restaurant universitaire pour un garçon de 20 ans, c'est pas possible. Mmh. À moins qu'il ait envie de devenir malade ou que ce soit vraiment le gringalet, le dernier des gringalets. Qu'ils n'en sortent pas, qu'ils ne puissent pas même prendre le car tous les jours pour aller du campus à la ville pour y sortir et faire quoi que ce soit, parce que quand on sort en ville, on prend un pot avec des copains ou on va au cinéma. Je comprends tout à fait qu'il y ait des contestations à cet égard. Ça,
oui,
ça, je le comprends très très bien.
Mmh. Oui,
bon. En dehors de cela, il n'y a pas eu ça hein, comme problème. Il y a eu tout un contexte politique, parce qu'on s'est dit que si on changeait de gouvernement, les crédits viendraient peut-être. C'était peut-être utopique, mais qu'est-ce que ça peut faire? On peut toujours tenter de changer.
Oui.
Et il y avait aussi le fait qu'on a, quand on a 20 ans, on a envie de taper sur des flics. Bon. En dehors de ça, bon, enfin, ça c'est encore une petite histoire.
Oui.
Non, je crois qu'il y a quand même un problème important, celui du campus et des bourses qui sont octroyées aux certains élèves, ça c'est certain.
Oui.
Les élèves qui sont, par exemple, au niveau de la licence, obligés, mais réellement obligés de travailler, qui sont toujours mutés à au moins 150 km de l'endroit où ils font leurs études, qui ont donc des frais de voiture énormes, qui ont des frais de toutes sortes, qui ne peuvent pas vivre une vie d'étudiant qui soit épanouissante. À partir du moment où il n'y a pas d'épanouissement, il y a bagarre, c'est normal. Hein?
Oui,
bon, à côté de ça, il y a quelques privilégiés dont je fais partie, c'est certain, qui ont droit à tout ce qu'ils veulent pour faire leurs études et qui ne les font pas nécessairement. Je comprends tout ça. C'est des petits problèmes, c'est des petits problèmes qui sont un petit peu mesquins, mais... Dire qu'il n'y ait pas de problème des étudiants à l'heure actuelle et que les événements de mai étaient simplement le fait de quelques bagarreurs, c'est certainement faux.
Oui.
C'est même, je suis persuadée que c'est faux.
Oui.
Alors derrière ça, bien entendu, enfin, moi, à la base, il y a tout un problème politique, économique, qui est énorme, hein, qui est celui de la France probablement, et bien pire encore. Ça, je pense que vous voyez.
Oui, bien sûr.
C'est plus du tout problème d'Orléans, ni
de...
même pas celui de la France uniquement.
Oui, oui, non, hein? Bien sûr. Non,
il y a même derrière ça tout un problème d'idéologie qui se greffe.
Oui.
Ça, je ne peux pas me permettre d'en parler, ou alors parler de ce que je pense, simplement. Enfin, au simple niveau des étudiants que je peux côtoyer tous les jours, certains qui ont un problème. C'est certain. Oui.
Et vous croyez enfin qu'après les événements de mai, ça a changé un peu ou...
Non, je ne crois pas que ça ait changé grand-chose. Alors là, je me prête à taper dessus sur la plupart de mes amis étudiants, sans aucun doute. Je ne crois pas que ça ait changé grand-chose. Parce que ça ne pouvait pas changer quelque chose. Je pense que ça a peut-être, au niveau des opinions des gens, créé quelque chose de nouveau. Mais du point de vue des faits, ça n'a pas changé. Du point de vue des faits, au niveau de l'université, simplement, ça a créé un désordre. Un désordre, un je m'en foutisme, etc., etc. Et pire, au niveau des examens, une malhonnêteté effrayante. Bon. Bon, alors, disons que ça n'a rien changé du point de vue des faits. Hein? Que l'on ait construit à Nanterre quelques bâtiments de plus, c'est certain. Bon, c'est tout ce que ça a pu changer. Bon. Maintenant que ça n'est pas amené chez la plupart, et chez même tous les gens en France, pas une crise de conscience, mais enfin une prise de conscience, ça c'est très possible. C'est-à-dire que c'est peut-être un pas de fait en sens que les gens vont réfléchir.
Oui, d'accord.
Hein? Je ne sais pas, probablement.
Oui, d'accord.
Oui. Enfin, du point de vue strictement matériel, ça n'a pas changé grand-chose. Je n'ai pas dit que ça ne changera pas.
Je pense même qu'au contraire,
ça changera.
Ça changera au fur et à mesure.
Enfin, il est bien évident que ça ne pouvait pas changer d'un jour à l'autre, que les étudiants n'auront pas pour un franc 60 un biftec tous les jours au restaurant universitaire.
Oui.
Hein?
D'accord.
Donc ça a probablement changé quelque chose.
Oui, d'accord. Enfin, j'ai une amie qui fait une licence d'anglais, justement à Toulouse, qui a passé un an en Angleterre l'année dernière, en tant qu'assistante dans un lycée anglais. Et maintenant qu'elle est rentrée en France, elle dit que toujours à l'université, enfin, il a changé, enfin, il y a toujours le même désordre, etc.
Oui, je crois même que c'est pire du point de vue des arts, parce que tout le monde se mêle de parler de ce qu'il ne connaît pas. Il y a tout un tas de politiques et tout un tas de graffitis sur les murs. Moi, ça ne me gêne pas, je m'en fiche éperdument, mais enfin, ça n'a pas changé quelque chose, faut pas croire. Il y a un tout petit peu plus de désordre.
Enfin, ça va changer. Et est-ce que... Enfin, lorsque vous votez pour un député, vous... Enfin, je crois que vous avez la majorité pour voter.
Oui.
Mais oui. Alors, lorsque vous votez pour un député, qu'est-ce que vous attendez de lui? Enfin, quand vous votez pour quelqu'un, qu'est-ce que vous attendez de lui?
Je les connais trop dans la région pour savoir qu'il n'y a rien à attendre. Parce que ce qu'ils attendent, eux, c'est les deux ou trois gueuletons qu'ils auront à faire et les quatre ou cinq voyages qui leur seront payés. Non, mais je crois, je dis peut-être une bêtise. Il y a parmi eux des gens qui sont certainement des gens qui veulent faire quelque chose, c'est certain. Mais le plus souvent, que ce soit au Sénat ou autre part, je pense que 900 000 francs par mois, personne ne crache dessus. Et les petits voyages de la Martinique, comme en ce moment, non plus. Ou alors, ce sont des fous.
Oui.
Non, on n'attend pas grand-chose.
Non.
Ouais, non, rien grand-chose.
Et...
Là, j'exagère. Je ne suis pas très honnête. Je pourrais essayer d'attendre quelque chose, mais je n'ai pas confiance.
Alors, dans les élections nationales, pourquoi y a-t-il deux tours? Il y a deux tours, je crois, en France.
Deux?
Deux tours.
Dans les élections nationales?
Non.
Oui, il y a deux tours, oui, c'est possible.
Et mais pourquoi?
Je pensais qu'il y avait deux tours uniquement parce que... Moi, je sais pas, en fait, non. Non, je sais pas.
C'est ça, oui.
Je pensais uniquement que c'était une question de... de ballotage ou ce comme ça, non?
Mais en Angleterre, il n'y a qu'un tour. Ça se fait comme...
Mais c'est vrai que pour la députation, il y a deux tours. Mais c'est pas uniquement... Mais non, je pense qu'il y a deux tours parce que... Attends, pardon. Je crois qu'à Nancy, en ce moment, il y a eu deux tours uniquement parce qu'il y avait ballotage. En principe, il y a deux tours de prévu, mais est-ce que ces deux tours ont lieu toujours? Pas nécessairement uniquement quand il y a ballotage.
Ah oui, d'accord. Et comment ça se passe alors, le ballotage?
Le ballotage veut dire qu'il reste deux personnes en présence.
Ah oui, d'accord.
C'est tout.
Et on décide de...
Voilà,
après,
on revote. Donc, au deuxième tour, uniquement dans ces cas. Les deux tours sont prévus, bien entendu. Il y a pratiquement toujours deux tours, d'ailleurs.
Oui, d'accord. Et alors, comment est-ce qu'on décide son vote pour le deuxième tour, par exemple? Mettons qu'on a voté pour quelqu'un au premier tour qui... n'est pas une des personnes qui est dans le ballotage. Enfin,
alors, on revote pour celui qu'on rend.
Enfin,
qui est le plus proche
de décider politique,
oui.
Puisque nous avons. Vous avez, d'accord. Et quel...
Là, je me trompe peut-être. Hein. Je fais peut-être des erreurs parce que je ne connais pas.
Ah, enfin, j'avoue que même en Angleterre, le système anglais, on a fait un tout petit peu d'instruction civique, mais.
Non, voilà l'instruction civique, comme quoi ça manque.
Mais je ne me souviens plus de grand-chose, malheureusement. Enfin, quelle est la différence, pensez-vous, entre la droite et la gauche?
En France?
Oui.
Il y a une différence énorme, je crois, en France. Il y a tellement de gradations qu'il finit par avoir une différence assez énorme entre la droite et la gauche en France.
Et qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que... La droite, c'est la partie de... Monsieur Pompidou, je crois, non c'est...
Non, Pompidou n'est pas spécialement à droite. Enfin, s'il est à droite, si, incontestablement. Mais enfin, ce n'est pas le plus à droite qui soit. Ce n'est pas un extrémiste.
Non, d'accord.
Pas plus que dans la gauche, dans la gauche, on parlait des maoïstes, etc., qui pourraient être extrémistes, disons qu'ils pourraient. Hein. Mais non, Pompidou n'est pas spécialement un extrémiste de droite, loin de là. Il a établi un gouvernement à l'heure actuelle qui est...
Centre-droite.
Qui est un bon centre, oui.
Et vous croyez que les Français, en général, préfèrent le centre à bon...
Oui, bien entendu. Le Français, par-dessus tout, aime l'ordre. Hein?
Oui, ça.
Non?
Oui, c'est bon. Si.
Alors, à partir du moment où l'ordre lui paraît être le mieux établi, il vote pour ça. Le Français est très peureux, le Français...
Mais peur, je ne sais pas. Enfin,
après, c'est savoir si la génération qui est la mienne ne va pas tout chambouler, je crois pas. Je pense que non. J'ai peur que non, même. J'ai peur qu'elle parle beaucoup et ce que je suis en train de faire en ce moment, quoi.
Ce que finalement, ça n'a pas changé. Mais est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées, Orléans?
Oui, extrêmement marquées, Orléans. Oui. Épouvantablement marquées, Orléans.
Épouvantablement.
C'est effrayant. Ah oui, c'est effarant. Bon, disons, je parlais de moi. Je suis désolée de parler de moi, mais c'est pour vous dire, c'était un bon exemple. Je suis une famille donc extrêmement bourgeoise et très aisée. Mmh. Maman est professeure, mes parents travaillent. S'ils ont l'argent, c'est parce qu'ils ont travaillé. Mmh. Mon père est avoué, c'est pour vous situer. Bien, maman, qui est une personne extrêmement simple, mes parents sont des gens très simples en réalité, fait son marché en Solex. Quand elle fait son marché en Solex, personne ne lui dit bonjour parmi les gens bien d'Orléans. Mais vraiment, personne ne lui dit bonjour. Que ce soit les aristocrates d'Orléans, parce qu'il y en a quand même une bonne couche, un bon groupe, que les gens du palais, par exemple.
Mmh.
D'accord, justice. Bon. Le médecin, on ne lui dit pas bonjour, parce qu'il est en Solex, on ne veut pas la reconnaître, surtout. Bon. Qu'elle se promène en vison un après-midi où elle va prendre le thé chez Madame X, et tout le monde lui dira bonjour. Bon. Et bien, c'est ça que j'appelle la différence entre les classes sociales. C'est que plus qu'elles existent, on les crée et on les recrée, et on, etc., etc. Voilà ce qui est odieux, hein.
Ouais,
bon. Que je me sois promenée pendant 15 jours à Orléans avec un barbu à cheveux longs, parfaitement maoïste et parfaitement intelligent aussi, et aussitôt je me suis fait traiter de bol chaud. Alors ça, c'est la petite histoire. Donc bien dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que derrière tout ça, il y a une différence énorme entre les classes sociales. Et ce qui est pire, la différence, elle existe, c'est certain. Il y a toujours moyen de... Par exemple, au niveau intellectuel, au niveau de l'amour, au niveau de... Bien des niveaux, elle peut être effacée.
Mmh, ouais.
Peut-être pas complètement, mais elle peut être très estompée, il me semble. Mmh. Non ? Et Orléans fait exactement le contraire.
Oui, d'accord.
Ah, ça, c'est très net pour Orléans. Et ça, je suis vindicative à cet égard. Mais réellement.
Mmh. Oui, d'accord.
On sort dans son milieu, on parle aux gens de son milieu.
Et
Orléans, je vous assure qu'il n'y a pas un bidonville, mais presque.
Mmh.
Presque.
Oui.
Et à côté de ça, il y a des gens qui sont fort riches. Puis à côté de ça, il y a des aristocrates de Sologne qui n'ont plus un rond en poche, mais qui... Bon, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question donc de mentalité.
Oui, d'accord.
C'est encore la province, Orléans, à cet égard. Hein. Vous direz à Paris, dans certains arrondissements, c'est la même chose. Celui qui habite le 10e ne côtoie pas celui qui habite le 16e.
Oui.
Certains. Alors je pense que le seul espoir, c'est au niveau des étudiants, au niveau des études, au niveau de... d'un tout petit peu plus de compréhension et d'intelligence, peut-être.
Oui, oui.
Non ?
Si, certainement. Enfin,
c'est bien gentil d'acquiescer.
Mais oui, non. Non, parce que justement, enfin, j'ai fait plusieurs interviews, demandé à plusieurs personnes, posé la question à plusieurs personnes, et on me dit que les différences entre les classes sociales ont tendance à disparaître. Oh, non. Oh, c'est vraiment là. Non, je ne croyais pas.
C'est une offre.
Et même si on appartient à un certain milieu, il faut se conduire, d'après vous, selon les exigences du milieu et non pas sortir.
Pardon, je sais, j'ai pas compris.
Si on appartient par exemple à un milieu qu'on appelle X,
oui.
Il faut qu'on se conduire en tant qu'une personne qui appartient à un milieu
oui.
X
c'est
et
pas
non
il
sortir
faut. De ce milieu. Non,
oui.
C'est pas il faut, c'est on.
On.
Hein?
On est d'accord. Oui, d'accord.
C'est ce qui se fait hein,
oui,
en ce
oui,
moment.
Oui, d'accord.
C'est ce qui a lieu.
Oui, ce qui se fait. Oui,
c'est un gérondif. C'est pas une faux.
Oui.
Non, c'est.
Oui, je ne sais pas si vous connaissez la pièce de Oscar Wilde.
Oui,
L'importance, je ne sais pas comment le traduire en français, l'importance d'être Ernest. The importance of being Ernest.
Non, je ne connais pas.
Alors, c'est vraiment très très bon. Il y a. Lady Bracknell, qui est un cheval sur les principes et sur ce qui se fait. Et justement, un pauvre monsieur qui s'appelle Ernest a sa maison du côté qui, à l'époque, n'est pas à la mode. Enfin, du côté de la place qui n'est pas à la mode.
Mm-hmm.
L'année dernière, c'était justement ce côté-là qui était à la mode. Maintenant, c'était l'autre côté qui était à la mode. Donc, le pauvre monsieur, vraiment, Valé de Berkeley est indigné que ce monsieur qui veut épouser sa fille habite justement
d'accord.
Au mauvais côté de la de la place. C'est très très bien, c'est très bon.
Mais alors je crois qu'il y a au sujet de ces places à Orléans beaucoup.
Beaucoup.
Oui, et... beaucoup à faire probablement, mais c'est pas prêt de disparaître, je crois.
Et est-ce que vous croyez qu'on peut reconnaître, par exemple, des personnes appartenant à des classes et à quoi est-ce que vous reconnaissez?
Oui, on reconnaît beaucoup, beaucoup de choses, à mon avis. Énormément de choses. Plus je côtoie les gens, plus j'en ai l'impression.
Et comment, enfin, à quoi est-ce que...
Bon, je ne parle pas d'une attitude extérieure. Je ne parle pas même de l'habillement. Ce qui est évident. C'est tellement évident que ce n'est pas peine de le dire. Si je ne suis pas là dans mon toute fourrure, c'est que mes parents peuvent m'offrir un toute fourrure. Bon. Mais je crois que c'est surtout lorsque les gens parlent qu'on s'en rend compte.
Pardon.
Je vais peut-être dire quelque chose qui va vous paraître grossier, mais on le constate même au niveau du langage, du simple langage. Il est certain que le fils de l'ouvrier chez Renault, même s'il a fait des études, au moins que ce soit un arracheur, gardera, malgré lui, derrière lui, tout un vocabulaire qui n'est pas le même que... pas que celui d'un tout autre, du fils d'un tout autre milieu. Bon, avec tout un truc comme ça, néanmoins, là où l'espoir, où je place mon espoir, c'est que l'éducation tend à devenir la même, pour bien des jeunes, et que par conséquence, là va disparaître, c'est certain.
D'accord.
Je crois même, je vais encore me permettre de parler de moi, que j'épouserai sans crainte, je dis crainte, hein, en sachant très bien qu'il y aura toujours des différences, et comme il y en a toujours de toute façon entre les gens.
Bien sûr.
Un type dont par exemple les parents soient simples ouvriers chez Renault, sans hésiter. À partir du moment où bien, il a des qualités qui me conviennent, et qu'il, à partir du moment donc je répète, où il a fait des études de. Sont semblables aux miennes, même s'ils ne s'habillent pas comme moi, et etc. Parce qu'il y a quand même des différences, c'est incontestable.
Oui.
Je pense que la vulgarité, qui est quelquefois le lot de certaines personnes qui n'ont pas le même milieu que nous, certainement, n'a rien à voir avec l'intelligence et des valeurs plus sûres. Alors qu'il y ait des différences dans l'habillement, c'est incontestable, qu'il y ait des différences dans le langage, c'est incontestable, qu'il y en ait de bien d'autres ordres dont qui ne me viennent pas à l'esprit, c'est certain. Il y a un niveau où on rattrape tout ça. Je crois. Les différences, il y en a, Orléans énormément. Plus Orléans qu'autre part. Si tout le monde s'habille en beatnik et en blue jean, il n'y en aura presque plus. Ce sont celles de la différence de la bêtise à l'intelligence, du cœur à la méchanceté, ce sera tout alors.
Est-ce que vous croyez qu'on peut passer d'une classe à une autre?
Je ne crois pas qu'on passe d'une classe à une autre, c'est ce que j'essayais de dire en même temps tout à l'heure. Je crois qu'on créera une autre classe probablement. Peut-être, mais je ne crois pas qu'on passera d'une classe à une autre. Je suis une bourgeoise, je resterai une bourgeoise. De la même façon que celui qui est noir restera un noir. Mais c'est pas pour ça que les choses sont impossibles. Je crois qu'au contraire, c'est important de garder ce qu'on est.
Alors que c'est les classes qui sont à un moment dans le temps qu'on appellera X, par exemple, et que, par exemple, à un moment plus éloigné dans le temps, Y, la classe aura évolué ou d'autres classes.
D'autres, autre chose. Hein, c'est pas une, ce sera peut-être ce sera nécessairement un facteur d'évolution, un fait d'évolution, mais il y aura, j'espère, enfin je crois, j'ai l'impression, probablement, enfin du moins ça se fera pas comme ça et ça ne se fera jamais complètement, faut pas être absolu, mais non, le bourgeois restera le bourgeois, mais je pense qu'il pourrait y avoir une espèce d'évolution.
D'évolution.
Ah, autre chose.
Enfin, j'ai une dernière question sur ce questionnaire qui est est-ce que les différences entre les classes ont tendance à diminuer ou à augmenter?
C'est pas le problème, hein. Je crois que c'est un faux problème, ça. C'est un faux problème. Vous comprenez, c'est comme si vous me disiez. Est-ce que la génération des parents va durer telle qu'elle est? Bah, les parents ne sont plus déjà les mêmes que quand ils avaient 20 ans.
Oui, c'est
ça. Donc ça diminue, je m'en fiche, hein, ça change. Et certains qui restent bons bourgeois, qui resteront bons bourgeois, parce que c'est comme ça que ça leur plaît d'être. Mais je pense que néanmoins, il y a un changement qui se fera au niveau de l'individu. C'est pas au niveau... J'en sais rien, ça. Je ne peux pas y répondre. Je crois que c'est un faux problème.
Oui, d'accord. Je passe
à des questions.
Vous n'avez pas de
non,
chose,
il y a un
croire.
Ici, c'est incroyable.
Il y a un parking, il y a l'école et puis alors un parking là. Alors, tout le temps, il y a des bruits de voiture, etc. Enfin, je vais voir si là-bas ça continue. Vous n'êtes pas pressé, je vais voir.
Absolument
si...
pas. Deux, j'en ai.
J'en ai sûr. Oui. Vous avez du feu? Parce que je crois que j'ai arrêté. Je vais aller chercher des allumettes.
C'est gentil, remercie.
Bon, alors, un étranger veut venir en France pour apprendre le français. Dans quelle région est-ce que vous lui conseillez d'aller?
Mais Tours, bien sûr. C'est là qu'on parle le mieux français. Non, réellement.
Oui.
Réellement, oui. Non, je parle là de la question d'accent, hein, uniquement.
Oui, d'accord.
Accent. Incontestablement que la région de Tours et l'Orléanaise, l'accent est le plus...
Et l'Orléanais aussi.
L'Orléanais aussi, oui, bien sûr. Région centre.
La Touraine.
Poitiers aussi, vous comprenez. Toute la région au centre. Vous ne conseillerez pas de la Nice.
Non.
Et pourtant, quel climat.
Oui. Enfin, là, c'est surtout pour apprendre
le
français.
Pour le point, oui.
Du point de vue accent. Et est-ce qu'il y a des endroits qu'ils devraient éviter?
Oui, du point de vue de l'accent, par exemple. Du point de vue... Je vais tomber dans... Il reste en France, c'est incontestable, un certain patois. Des mots de patois. Hein, des régionalismes. Que l'on trouve par exemple dans l'Asie centrale, dans les Cévennes, dans le Pays basque.
Oui. Hein,
tous les pays limitrophes. Lille, par exemple, à Lille, on a un accent épouvantable, et en outre, on emploie des termes qui ne sont pas des termes de vrai français que l'on ne trouve même pas dans le dictionnaire.
Hein.
La Bretagne, on parle quand même en Bretagne dans certaines. Alors, je ne parle pas bien sûr des milieux bourgeois où il semble que le français soit adopté d'une façon. Enfin, tous les pays, l'Alsace, vous pensez comment on parle en Alsace, vous avez déjà entendu en Alsace? Vous comprenez en alsacien?
Non, du tout.
Bon, et là, je ne parle pas simplement de l'accent, je parle de termes qui n'existent pas dans le centre de la France, qui sont même parfaitement inconnus.
Oui, d'accord.
En Corse, par exemple, je suis corse de naissance, eh bien, il y a des termes que je ne prends même pas. Hein. Tous les pays limitrophes, pratiquement.
Oui, d'accord. Et ça, c'est point de vue accent et vocabulaire, là.
Ah oui, vocabulaire, oui, les régionalismes, c'est épouvantable. Hein.
Et pour bien apprendre le français, quel genre devrait-il fréquenter? Pourquoi?
Moi, je n'hésiterai pas à dire qu'il y a presque sans problème à certains milieux à fréquenter. Bon, le mieux, c'est la fac. La fac de lettres, alors là, vous parlez bien français, les professeurs en France parlent un français extraordinaire. Mais au niveau des familles, je pense qu'il vaut mieux quand même aller pour parler un bon français, je sais pas, dans un milieu d'industriel, des gens qui ont fait des études. Il y a quand même en France un certain nombre de gens, parmi la génération des parents, qui ne parlent pas un très bon français, qui n'accordent pas leur partie passée, qui ne font pas leur liaison, etc. Qui sont incapables de donner à un élève et un étudiant donc une étymologie quelque chose d'intéressant, quoi. Expliquer un mot, ce qui est essentiel. Parce que je ne dis pas de mettre le mot sans savoir tellement d'où il provient, pour avoir donné une étymologie, c'est important. Pour ça, je suis persuadée qu'il y a un milieu qui joue là. Enfin, un milieu qui est celui des gens qui étaient privilégiés en France, qu'ils avaient fait quelques études. C'est pénible à dire, probablement, mais je crois que c'est vrai.
Surtout, enfin, pour apprendre, c'est pour bien apprendre le français la question, donc
oui.
ça qui rend fait chaud. Et est-ce qu'il y a des gens donc qu'ils devraient éviter de fréquenter?
Éviter, non. Pour le français simplement?
Pour le français simplement, oui.
Pour le français simplement?
Oui, enfin là, la question c'est est-ce qu'il y a des gens qui devraient éviter de fréquenter
Alors ça, c'est très très joliment posé. Vous verrez ce soir, vous avez d'employer une telle expression.
Alors, non, je ne sais pas exactement si c'est pour le français. Non, je pense, oui, peut-être pour le français.
Pour le français,
oui,
pour le français. Certainement. Mmh. Pour le français, c'est certain. Pour le reste, c'est faux.
Oui.
Pour le reste, non. Pour la langue en elle-même, oui.
Oui, oui.
En fait, ils n'apprendront pas le français, ils n'apprendront pas l'anglais encore en France. Hein.
Non, bien sûr, oui. Ça.
Non, mais...
Heureusement, d'ailleurs. Alors,
oui. Je tiens, pour la langue. Mmh. Parce qu'autrement, certainement pas.
Oui, d'accord.
Non, je veux même vous donner un exemple, si je me permets, si je peux parler un petit peu.
Oui.
Mes frères qui font de l'allemand, tous les deux, nous recevons régulièrement... deux jeunes Allemands, cousins, à la maison. Il se trouve que ces jeunes gens font venir depuis quelque temps à Orléans, de même c'est Münster Orléans, le chômage, leur cousine, dans une autre famille, une famille qui est extrêmement bien, les enfants font des études, les parents n'en ont jamais fait. Les enfants parlent mal. La gamine, quand elle vient à la maison, je suis toujours étonnée. Mmh. Autant les deux qui sont chez nous, c'est-à-dire Ingrid et Max, parlent un français correct.
Mmh.
Autant l'autre emploie quelquefois des termes qui ne sont pas des très bons français, et par exemple au lieu de dire je me le rappelle et je m'en souviens, mélange,
je me rappelle,
etc.
Hein?
Et il y a tout un tas de choses comme ça ne font pas l'accord des parties passées. La blessure que je me suis faite, et je me suis fait une blessure, ce sont des détails. Mais pour quelqu'un qui veut parler un français qui est un français grammatical, qui est nécessairement un français logique d'ailleurs,
c'est
dommage.
Oui.
Alors ça, c'est une expérience en fait, donc je ne disais pas trop de bêtises
pour c'est sûr, en fait, c'est des fois bien sûr, si on veut apprendre l'argot, c'est pas...
Quand même parler d'argot, parler d'un français mal compris, mal entendu, français parlé.
Oui, d'accord. Hein?
Je te promets que je n'ai pas fait ceci. Qui est aberrant du point de vue français. Oui. Je te l'affirme, autre chose là.
Oui, d'accord.
Et quelles sont, d'après vous, les difficultés de la langue française pour un étranger?
Bon, alors là, je vais peut-être parler un petit peu en littéraire. Je pense que ce sont d'abord les verbes, les accords, évidemment. Mm-hmm. Tout un tas de nuances qui existent en français et qui ne semblent pas exister en d'autres langues. Hein. Mm-hmm. De nuances que c'est le sens, là, je parle de sémantique.
Oui, oui.
Hein?
Mm-hmm.
Qui est énorme, qui sont énormes, ces nuances, finalement.
Oui, oui.
Plus qu'une question de vocabulaire, bien entendu.
Mm-hmm.
Hein?
Oui, d'accord.
Je pense que pour un étranger, celui qui a fait du latin, moins de problèmes que pour quiconque, bien sûr, n'en a pas fait. Mais il y a quand même une difficulté grammaticale énorme. Je pense qu'il y a une grammaire énorme en français. Enfin, j'en suis sûre.
Oui,
hein?
oui.
Comme on n'en trouve peut-être pas, du moins si, tellement affirmé, aussi affirmé en anglais, par exemple, parce qu'il y a une grammaire anglaise importante, certainement, mais qui est plus au niveau du détail, ce qui n'en est pas plus simple, d'ailleurs. Que je parle de l'anglais là, je vais voir comment je parle, mais enfin.
Non,
excessivement grammatical, le français.
D'accord. Enfin, vous m'avez déjà dit qu'on parle bien rien, donc il ne vaut pas la peine que je vous pose la question est-ce qu'on parle bien rien? Mais est-ce que vous trouvez que tout le monde parle bien rien, à part les étrangers?
Alors là, je pense que ça n'est pas propre à Orléans, mais dans toutes les villes. Hein? On parle dans la même proportion bien et mal à Orléans qu'à Marseille. Hein?
Oui, d'accord.
Aussi bien et aussi mal à Orléans qu'à Marseille. Mmh. Ça, ce n'est plus le même problème du tout. Hein?
Mmh. Oui, d'accord.
La proportion doit rester sensiblement la même. Proportionnelle. Alors, la proportion se fait au niveau de la population.
Oui, d'accord. Hein? Oui. Et est-ce qu'à votre avis, le français est une langue difficile? Là, je vous ai posé la question, c'est un peu
C'est pas vous qui avez posé la question, parce que vos questions sont parfaitement précises, c'est moi qui interviens toujours sur les autres questions.
Non, c'est... Mais justement, il y a 15 ans, après, vous voulez discuter de la langue française par un étranger. Et maintenant, je vous... Enfin, à tout de suite, vous dites...
Est-ce que la langue française est une langue difficile?
Oui.
Oui, je crois. Je crois que c'est une langue difficile.
Et en quoi?
Toutes les langues sont difficiles, d'ailleurs. Mais enfin, la langue française, c'est une langue difficile. Oui.
Et pour les Français, vous entendez par là où...
Pour les Français aussi, oui, pour les Français, oui. Parce que je crois que c'est une langue qu'on a tendance à... Étant donné qu'elle a énormément de nuances, qu'elle a énormément de grammaire, qu'elle, etc., etc., les gens ont tendance à passer l'éponge sur un certain nombre de difficultés qui n'en sont pas quand on les connaît, et à parler un français qui comporte au grand maximum 2000 mots, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, le français est plus riche. Et que par exemple, le français dira « je discute en ce moment avec vous », ce qui est absolument faux, vous dites « interview » dans un chapeau. Mais en fait, nous ne discutons pas, nous conversons.
Oui, d'accord.
Voyez la nuance, vous avez fait du latin. Discuter, c'est divers, c'est l'éparpillement, c'est ce qui est... Enfin, c'est peut-être l'éparpillement en ce moment d'ailleurs. Mais converser, c'est tâcher d'arriver à quelque chose de positif. On fait quelque chose en ce moment, du moins on essaie. Alors voilà, tout un tas de choses que... Là où se place la difficulté, peut-être français, plus qu'autre part. Maintenant, je ne peux pas juger en comparant une autre langue, parce que je connais trop mal.
Mais enfin, c'est ça, oui, c'est certain que...
Je pense que le problème se pose sur les autres langues aussi. Enfin, disons oui.
Oui. Et surtout, vous diriez que c'est surtout une langue difficile, vu qu'il y a tant de... Enfin, qu'il y a ces nuances, et attendez, il y a ces nuances d'abord,
tout
à l'heure, et puis aussi, qu'est-ce que vous avez dit, que le français moyen, si on peut dire, ne... Comment expliquer ça?
Mélange.
Oui, mélange, mais
ne distingue pas, c'est ça que vous voulez me faire dire?
Mais aussi, n'est pas conscient ou ne peut pas, vu son éducation ou vu son milieu, profiter de la langue française qui est riche.
Oui, c'est un peu ça, oui.
D'accord. Et... Quelqu'un est de passage, mettons, à Orléans, il vous demande ce qu'il faut faire pendant son séjour.
Orléans?
Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
Une balade sur la Loire, d'abord.
Oui.
Une balade sur la Loire. Parce que ça, c'est encore Orléans.
Sur la Loire, vous entendez en bateau?
Non, à pied.
À pied.
De toute façon, j'ai pas de bateau sur la Loire. Non, parce que s'il veut aller faire du bateau, qu'il sorte d'Orléans, qu'il aille à Olivet.
Oui, d'accord.
Non, ça va prendre un d'Olivet. Mais alors, vous me parlez d'Orléans pour l'instant, j'ai bien compris. Bon, alors d'Orléans, il y a quand même deux ou trois petites choses à visiter. Non, il faut aller voir la cathédrale, par exemple.
Oui, d'accord.
Bon, ça c'est bien banal, mais c'est à faire. Parce qu'on a tendance à ne pas le faire, je pense.
La cathédrale, encore des choses à visiter.
Oui, voilà, la cathédrale, le beffroi, etc. Vous voyez tout ce qu'il y a, puis même les petits faits journal. Non, ce que j'aimerais voir, c'est la bibliothèque Charles Péguy, enfin les trucs de Charles Péguy, etc. Bon, et une chose, si c'est un étudiant, je l'enverrai carrément à la bibliothèque, voir M. Hougecorne, parce qu'on a à Orléans des manuscrits tonnerres, et ça, les gens ne connaissent pas. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, peut-être que ça n'intéresserait pas tout le monde.
Sûr,
autrement, en dehors de ça, je ne lui conseille pas grand-chose. Bon, bien entendu, on a le dernier étage des galeries, où on mange... deux ou trois gâteaux, mais c'est bon, il n'y a pas grand chose. Sans rien.
C'est le quatrième étage, je crois donc.
Je ne sais pas, le dernier étage. Mais non, ça c'est de la rigolade, hein. Enfin, ça va être le si vous voulez. Il y a quand même un ou deux jardins. Si, il y a le parc Pasteur en Orléans.
Oui.
Qui est joli. Est-ce que j'oublie certainement un tas de trucs, mais enfin, voilà.
Oui.
Il n'y a pas des masses de choses en rien. Tu sais qu'il aille voir la...
Pas quand même. Et certainement, enfin... Ça dépend de la personne, surtout, quand il va dans une ville, s'il va faire quelque chose, et s'il veut visiter quelque chose, il va le visiter dans n'importe quelle ville, si ça t'intéresse. Je veux que vous, enfin, que vous imaginiez que c'est ici votre bureau et que quelqu'un frappe à la porte de cette pièce. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Entrez.
Ok ?
Entrez.
Entrez, merci. Et vous êtes à la faculté ou enfin avec des amis ou avec un ami et vous allez les inviter à venir prendre un peu, enfin oui. À prendre quelque chose ou, oui. Chez vous ou dans
oui.
Un café ou
oui.
Partout. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous lui dites ?
Si on frappe à la porte ?
Non, non, non. C'est, vous êtes à la faculté maintenant ou enfin vous êtes avec des amis ou un ami ou et ou même vous êtes à Orléans, vous avez rencontré quelqu'un dans la rue, enfin un ami et vous êtes invité à prendre quelque chose à la maison.
Oui.
Qu'est-ce que vous lui dites à cette personne pour l'inviter ?
Alors là, je suis pas honnête du tout parce que à quelqu'un que je connais. Être de mon milieu à Orléans et dont je me méfie comme de la peste, je dirais, est-ce que vous auriez l'amabilité de passer prendre le thé chez moi, n'est-ce pas ? Et à Tours, où j'ai de bons copains, je dirais, tu viens prendre un pot chez moi, parce qu'il y a à bouffer. Voilà.
Oui, c'est ça. Bon.
Oui, alors, c'est-à-dire que je prends des gants, je fais attention à ce que je dis.
Oui, d'accord. Oui, d'accord. Et comment est-ce qu'on fait une omelette ? Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment on fait une omelette ?
Ah, une omelette, oui, bien sûr. Je casse des œufs,
oui.
Je les mets dans un récipient, je mets du sel et du poivre directement, je bats. Bon. Je prépare ma poêle, je mets du beurre. Hein. Bon, alors j'ai vu l'omelette tout simple, hein. L'omelette qui n'est pas bonne d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a rien dedans.
Enfin, l'omelette là-dessus.
Je bats énormément.
Hein. Oui, oui.
Je bats énormément. Et je place, je renverse mon omelette dans la poêle, je la fais cuire, sans trop remuer, quoi qu'on m'ait toujours dit, et je la pose sur une assiette, en la pliant en deux, voilà.
Voilà, c'est ça. Merci.
Vous attendiez le plier en deux.
Et comment est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous faites un lacet de chaussures, par exemple, ou comment on fait un nœud ou
un,
oui, un nœud papillon ou un nœud pour une chaussure ou n'importe où.
Bien, je tire les deux morceaux du lacet de façon à ce que ce soit serré à ma convenance, à moins que je ne le fasse sur quelqu'un d'autre. Je fais un nœud simple et bon.
Oui.
Au deux bouts, je fais une boucle
oui.
Que je serre le plus esthétiquement possible. Je ne mets jamais de chaussures à la serre pour m'empoisonner. Non, c'est tout.
Oui, d'accord, merci. Alors, Proust. Et est-ce que vous faites du mot croisé ?
Oui.
Oui, vous en faites lesquels ?
Je fais mon croisé du Figaro littéraire avec un dictionnaire à l'appui, hein, parce que sinon je peux pas. Ça va me glacer, mais ça va rien. Oui, après je fais mon croisé.
Et tous les combien enfin,
toutes les semaines.
Toutes les semaines.
Moi j'essaye de le faire toutes les semaines. Hein. Mm-hmm. J'essaye. Je ne le récite jamais, mais j'essaye de le faire toutes les semaines.
Et pensez-vous, enfin je vous ai déjà posé une question sur le latin. Est-ce que vous pensez que ce soit utile que les enfants apprennent le latin ?
Oui, très utile. Oui. Ça, j'ai déjà répondu.
Et en quoi ?
Très, très utile.
Enfin, sur la formation de... Oui.
Okay. Pour parler français, un français doit faire du latin. Hein.
Et...
Moi qui ai français, d'ailleurs.
Que pensez-vous du franglais ?
Eh bien, c'est tout un... Je me réfère à M. Etienne. Je pense que vous connaissez M. Etienne. Eh bien, ça permet un petit changement, alors ça ne sera peut-être pas plus mal. Voilà. Je ne suis pas contre.
Vous n'êtes pas contre.
Je ne suis pas contre en sens que ça va.
Pour, contre ou indifférent, alors
ça, je ne suis pas contre, je suis pour.
Pour ?
Je suis pour, oui. Pour une raison qu'on arrête les choses qui se font naturellement.
Oui, d'accord. Et y a-t-il des différences entre, vous avez déjà répondu à cette question aussi, enfin, Je dois noter aussi maintenant les réponses, enfin noter
oui, oui.
Très vite. Y a-t-il des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Oui. Oui.
Et ces différences sont-elles très grandes, grandes, ou y a-t-il peu de différences?
Il y a beaucoup de différences.
Beaucoup de différences. Donc les différences sont très grandes. Et en quoi consiste-t-elle surtout?
Bon, dans l'emploi de certains termes,
oui.
Dans l'emploi de certains termes et dans la construction des phrases, ça c'est énorme, la construction des phrases, les accords, les participes, et puis alors carrément l'emploi de termes qui sont erronés dans le sens, dans le contexte dans lequel on veut parler. C'est pour ça qu'on arrivera de moins en moins à se bien comprendre.
Et selon vous, est-ce que les gens parlent de mieux en mieux, de plus en plus mal?
De plus en plus mal.
Sans changement. Non, de plus
en
plus mal. Et de quoi est-ce que cela vient?
Cela vient que l'on supprime, mais vraiment on supprime. Et ça, je parle presque statistiquement à l'heure actuelle, sur un certain nombre de termes français, sans les remplacer. On les remplacerait, que ça n'aurait pas ne serait-ce que par le franglais, mais même pas.
On supprime certains termes.
On supprime certains termes dont l'emploi ne semble plus extrêmement important.
Oui.
Et c'est une erreur. Je dis ne semble plus, c'est une erreur.
Oui.
Et alors, il n'y a pas de remplacement.
Ouais.
Alors là, je n'ai pas fait d'allusion à l'argot parce que c'est le problème partout.
Oui, bien sûr. Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français?
Ma mère, d'agréger, claire. Et mon père avoué, alors évidemment.
Oui.
Mes parents, quoi.
Et professeur de...
Lettres.
De professeur de lettres. Dans un lycée ou...
Non, non, dans une école libre. Enfin, elle enseigne pratiquement plus.
Agréger, oui, pardon.
De lettres. Oui, c'est de lettres.
Oui, d'accord. Et y a-t-il en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Une autre pompeuse académie.
Voilà. Et vous trouvez que l'Académie française est utile, très utile ou sans utilité?
Dépend ce qu'elle, du point de vue des termes, que du point de vue de la question précédente ou d'autres points de vue?
Oh.
Bon. En fait, du point de vue de la question précédente, que l'on dise maintenant une enzyme, ça m'importe peu. Mais au point de vue des auteurs, par exemple, et donc de la vulgarisation de la langue française, au niveau des gens qui sont censés le parler le mieux, certainement, oui, une certaine importance. Alors là, il faudrait faire une restriction, c'est peut-être du commerce quelquefois. Enfin, ça, je ne veux pas le savoir. Oui, disons, oui. Il n'y a pas trois petits mots qui m'aideraient, là. Oui, sans indifférent, je ne sais quoi.
Ben, il y a très utile, utile, sans utilité.
Utile allez,
mais... Enfin, avec quelques réserves.
Oui, je ne m'arrête pas.
Et est-ce qu'il faudrait obliger les journalistes et les speakers de la télévision et de la radio à employer un bon français?
Oui,
oui. Et cela, vous trouvez que c'est très important, important, peu important?
Très important.
Très important. Et pourquoi?
Très, très important. Parce que non seulement ils n'emploient pas un très bon français, mais ils font des fautes.
Oui.
Des fautes, par exemple, des fautes de liaison. Hein? Il sera important, par exemple.
Oui, oui.
Et à midi encore, j'en ai entendu une. C'est très fréquent.
Oui. Hein? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait leur obliger? Désobliger, non.
Les obliger,
pardon.
Les obliger?
Oui.
Mais c'est une question de, j'allais presque dire, de politesse ou de respect. Hein? Bon, ça, ce sont des grands mots qui ne veulent pas dire grand-chose, mais pourquoi employer « il sera important » alors que c'est une faute?
Oui.
Mais ce sera tellement facile de le dire, il sera important. Donc, vous me direz, la plupart du temps, ce sont des fautes d'inattention. Mais étant donné la fréquence de ces fautes, la question là est la bienvenue. Et c'est très important qu'ils parlent bien français. Enfin, on leur donne toutes les excuses, bien entendu, celle de la rapidité, etc., etc. Enfin, néanmoins, c'est dommage. C'est dommage, quoi.
Oui, d'accord.
Ça n'aurait pas plus difficile de parler un bon français.
Important. Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la langue française est-elle enseignée aussi bien, mieux ou moins bien? Ça, c'est que du temps que vous étiez vous-même à l'école, enfin c'est...
Tu l'ignores. Non. Je l'ignore.
Je sais. Et dans quelle matière étiez-vous le plus fort à l'école?
En français.
En français. Français et latin. Et habituellement, est-ce que vous avez quelque chose pour écrire sur vous?
Oui.
Et c'est quoi, s'il vous plaît?
Un stylo.
Un stylo à plume ou à un bic?
À plume.
À plume. Et à la suite de quelles circonstances avez-vous possédé un stylo à plume pour la première fois? Est-ce que vous vous souvenez?
Je me souviens pas.
Non? Je me souviens... Quel, à peu près quel âge?
10 ans.
10 ans?
Oui, environ, oui. Ça, je pense pas me tromper. La circonstance, c'était probablement qu'on m'avait dit qu'on écrivait mal avec un stylo à bic.
Voilà.
Qui est d'ailleurs faux.
Ouais. Enfin, ça dépend du type de papier qu'on emploie.
Oui.
Et quand avez-vous écrit pour la dernière fois? Pour n'importe quoi, enfin, que ce soit un bout sur un bout de papier ou...
Ah, il y a une... Depuis que je parle, je venais d'arrêter d'écrire.
Oui, d'accord.
Ah, le temps que je vienne de chez moi.
Oui, et alors c'était pourquoi, s'il vous plaît?
C'était une leçon.
C'est une leçon. Il y a à peu près une heure et demie. Et avez-vous besoin, oui, vous avez besoin d'écrire pour votre travail?
Oui.
Pour prendre les notes, enfin pour des devoirs?
Oui.
Et est-il important selon vous d'avoir une belle écriture?
Oui. Oui. Non, ça, c'est un point de vue strictement esthétique.
Hein? Très important, important, peu important.
Très important.
Très important.
Mais ça, c'est le plaisir de mes yeux.
Et pourquoi? C'est pour l'esthétique seulement?
Quand je... Uniquement pour l'esthétique, oui. Quand je trouve une adresse à mon nom, faite d'une écriture ravissante, j'ai deux fois plus envie de l'ouvrir.
Ah bon?
Ça est arrivé il y a 3 semaines avec votre écriture. Réellement, avec votre écriture, il m'est arrivé à travers. J'ai envie d'ouvrir ça, c'est une façon splendide.
Enfin, là, c'est vraiment en vitesse, en fait. C'est vraiment très bizarre, parce que d'habitude, tout le monde critique mon écriture, en disant que c'est vraiment illisible.
Ah, probablement, peut-être, ça, je ne dirais rien, ouais, mais je trouve extrêmement esthétique.
Ah,
et
bon. Merci.
Enfin, j'arrête.
Et est-il important, selon vous, d'avoir de l'orthographe?
Oui, c'est important.
Très important, important, peu important, c'est aussi important.
Très important.
Très important. Et pourquoi?
C'est une question intelligente, ça, je trouve. Pourquoi? Parce que je le dis toujours un petit peu par habitude que c'est important d'avoir de l'orthographe. Bon, disons que celui qui connaît l'orthographe connaît beaucoup d'autres choses, probablement. Je suis un petit peu gênée dans cette question, parce qu'en fait, je n'avais pas tellement réfléchi. Non, c'est-à-dire que le fait d'écrire avec un bon orthographe implique une connaissance nécessaire et suffisante de la langue, pas suffisante certainement pas, mais voilà.
Oui, oui, d'accord.
C'est tout ce que je trouve à répondre, du moins. Une bonne connaissance, quoi.
Oui, d'accord. Et seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe?
Non.
Non. Défavorable, très défavorable.
Défavorable?
Défavorable. Et pourquoi?
Non, le très défavorable, ça ne veut pas dire grand-chose, je trouve. Pourquoi?
Oui.
Parce que je n'en vois pas l'utilité. Hein? que l'on écrive aggloméré, agglutiné ou aggravé avec un G au lieu de deux, ça me paraît même être une erreur. La langue française est faite de préfixes qui sont parfaitement autonomes du mot. Non, c'est une erreur.
Oui, d'accord.
Alors je pense que ça pourrait être que ça, la suppression de quelque chose, une réforme de l'orthographe.
Oui, oui.
C'est idiot, ça ne devrait plus rien dire, ou plus grand chose. Il y aura, bon.
Enfin.
C'est inutile.
Inutile.
C'est inutile.
Alors là, j'ai. Vous n'êtes pas marié.
Non. Hein,
parce que j'ai avec qui de vous, de votre mari. Enfin, ça, ça. Combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois?
Deux.
Deux. Ça, c'est hors travail.
Oui. Deux, mais ça signifie que je suis ni mariée, ni fiancée, etc. Hein? Mm-hmm.
Et pour votre travail
Jamais.
Et est-ce que vous conservez les lettres personnelles qu'on vous envoie?
Non.
Non. Jamais ou... Enfin, j'ai toujours, souvent, rarement, jamais.
Rarement, disons.
Rarement.
Rarement.
Et si vous les conservez rarement, vous devez en avoir quand même quelques-unes.
Oui.
Oui, et vous en possédez combien?
Une petite centaine.
Une petite centaine.
Oui, je suis sûre de ce que je dis.
Et lesquelles? Enfin, d'amis
Des lettres d'amis, oui, des lettres d'amis strictement. D'amis garçons. Les plus marrantes à relire quand j'aurai plus une cinquantaine d'années. Les lettres des gens fous, quoi.
Une lettre d'absence de vie. Et quand vous écrivez à des amis, est-ce que vous faites un brouillon?
Non, jamais.
Non. Vous faites attention aux fautes d'orthographe?
Oui.
Oui. Et est-ce que vous formalisez?
Oui.
Et avec quoi écrivez-vous?
Stylo.
À plume. Et quel type de papier utilisez-vous? Un carreau, ligne, blanc ou blanc ligne derrière?
Blanc à?
À ligne derrière.
À tire-ligne en dessous.
Oui.
Blanc à tire-ligne en dessous.
Et quand vous devez écrire, si vous deviez professeur à l'école de votre enfant, est-ce que vous feriez la même chose?
Oui.
C'est-à-dire pas de brouillon, attention aux fautes d'orthographe,
oui.
Relire,
oui.
Même instrument, même papier.
Même instrument, même papier, ça n'est pas certain. J'aurais... Un professeur m'avait dit. Oui, il y a une professeure, oui, exactement la même chose. Administration à la machine.
Oui, d'accord. Enfin, ça c'est plus tard.
Ah, très bien.
Alors là, oui.
Oui, c'est certain.
Et pour une lettre officielle, alors ce serait pas de brouillon?
Ce serait un brouillon et tapé. Un brouillon parce que ce ne serait pas tapé par moi probablement.
Oui. Et machine?
Oui, machine. Enfin, ou à la rigueur par moi, mais.
Et papier, enfin. Papier machine.
Papier machine.
Est-ce que vos parents faisaient attention à la façon dont vous parliez?
Oui.
Oui. Et est-ce qu'ils vous reprenaient?
Toujours.
Toujours.
Et en plus, ils ne m'ont pas appris à bégayer avant de parler.
Non. Et qui est-ce qui vous reprenait le plus souvent? Votre père ou votre mère?
Je pense que c'était sensiblement la même chose. Peut-être plus mon père, mais c'est mon père.
Oui. Et pour quel genre de choses, surtout? C'était les... Des fautes de français ou
des fautes de français. Je vais revenir à, je me le rappelle, je m'en souviens. Et des fautes de liaison, des fautes de liaison qui expriment des fautes d'accord.
Oui, d'accord.
Ou deux. Descendre en bas, par exemple. Hein? Ça revient à descendre en bas, monter en haut.
Oui. Et est-ce qu'il prenait des sanctions quelquefois?
Non.
Ce sont les questionnaires qui doivent être enregistrés.